Nous, à l'UFR 04, en art plastique, il y a une mesure qu'il faut mettre en œuvre d'urgence, c'est qu'ils ont donc collé à l'entrée de l'UFR des bannières où dessus, alors on ne sort pas en procession avec ces bannières, mais c'est marqué dessus « excellence ». Et donc, il y a des éléments de langage qui sont... L'excellence, ça devient un exercice spirituel. C'est-à-dire que chaque matin, vous arrivez, vous voyez cette bannière, vous méditez ça, et donc il y a une espèce d'auto-persuasion de l'excellence. Et moi, j'ai l'impression que le problème avec le... S'il y a un nouveau gouvernement, on ne sait jamais, hein, eh bien, le problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire désexceller le langage. Parce qu'il y a une espèce de sidération par l'excellence qui fait que, si moi je vous dis « est-ce que vous voulez être beau ?» Ben, bien sûr, vous voulez être beau. Vous voyez ? Est-ce que vous voulez être excellent ? Bien sûr, vous voulez être excellent. Mais le problème, c'est que celui qui est vraiment excellent, en fait, il le dit pas. Il dit pas « je suis excellent, je suis excellent, je suis excellent ». Vous voyez ? Et donc, il y a une espèce de mise en scène de l'excellence par le... de mise en scène d'éléments de langage de l'excellence, c'est ça qu'il faudrait arriver à shunter. Il me semble que dans cette espèce d'entreprise où chacun devient l'entrepreneur de soi, on devient l'entrepreneur de soi au travers de technologies de persuasion, qui sont ces fameuses bannières, et la modification du langage, en fait, une espèce de sidération du langage, de modification de langage, qui crée c'est une pathologie du langage, en fait, l'excellence. Si bien qu'après, bien quand on va vous dire vous êtes excellent, vous allez penser que c'est une insulte. Et moi, quand j'ai dit à un collègue, mais moi, je me sens insulté chaque fois que je vois cette bannière qui me parle d'excellence, je lui dis, moi, c'est comme si on m'insultait de l'autre côté du trottoir. On a l'impression d'être en banlieue. Et il m'a dit, mais alors là, ça veut dire que nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs. Alors je dis, mais non, parce que moi, j'ai pas besoin d'exceller pour exister. D'une certaine manière, il faudrait dire que l'existence précède l'excellence. Vous voyez, ce serait.
À propos de l'excellence, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais l'excellence, quand on voit les proportions de PES données à des excellents, c'est déterminé par des documents du ministère. Des quotas ont déjà été déterminés dans le vide, comme ça, je ne sais pas par qui, par quelle opération magique. On a déterminé qu'il y avait 20% d'excellents, 30% de... peut-être potable, je ne sais pas, moyen. On s'est dit, bon, quand ce n'est pas excellent. Et puis, 50% de mauvais. Donc, moi, ce terme d'excellence, c'est la possibilité de déterminer que 80% ne sont pas excellents. Et que donc, 80% peuvent recevoir des salaires qui sont minables, faire un enseignement dans des universités de seconde zone, à des étudiants qui vont avoir des diplômes de seconde zone, dont les salaires vont être de seconde zone. Et c'est abaisser tout le système de l'enseignement supérieur complètement à deux vitesses, aussi bien sur le plan régional qu'au niveau des disciplines, qu'on crée encore des cloisons et des séparations. Tout à l'heure, on parlait aussi de CEPES, mais pour moi, la création de CEPES, c'est une OPA du gouvernement pour contourner les centres de décision collectifs, collégiaux, qu'il y a dans l'université. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît tellement simple comme raisonnement, et j'ai vraiment l'impression qu'on s'est fait avoir sur toute la ligne. Simplement, on nous présente quelque chose avec des mots, l'excellence, par exemple, et donc tout le monde, beaucoup trop de personnes regardent cette excellence. Réagissent vraiment très lentement en comprenant que l'excellence, c'est pour créer de la non-excellence. Donc, on marche sur la tête. Enfin, je pense que ce qui serait important de voir, c'est quelles sont les valeurs importantes qu'on veut défendre. Parce que c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont déterminé des valeurs qu'ils voulaient défendre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont eus sur toute la ligne. Alors que nous, on définisse des valeurs qui sont importantes et qu'on arrive... Parce que à partir du moment où elles sont définies, où les gens s'y tiennent, eh bien, chacun peut être créatif dans son milieu et peut appliquer ses logiques dans son milieu, là où il travaille, dans sa petite unité ou sa plus grande unité à laquelle il participe. Mais si on n'arrive pas à déterminer, on les connaît, ces valeurs, mais c'est surtout là-dessus, je pense, qu'il faut que ça crée une ligne.
Moi, je dirais que la PES, elle a été inventée pour ne pas augmenter nos salaires. C'est-à-dire que la PES a été inventée pour éviter, parce que comme chacun sait, nos salaires sont très bas. Enfin, pour ce qu'on fait, je veux dire. Voilà.
Et la PES, la PEDR, qui a été remplacée par la PES, la PEDR récompensait un travail supplémentaire. elle rémunérait un travail. Avec l'APES, on passe à une autre logique qui est de rémunérer un statut d'excellence. Voilà. Et c'est là aussi où ça ne va pas.
L'intérêt de la prime d'excellence, c'est justement que très peu long. Et je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est justement l'intérêt, c'est que c'est le prestige par le mépris. C'est-à-dire, c'est justement ne doivent pas pouvoir y prétendre tous les gens qui pourraient l'avoir. Donc, je pense que c'est le dispositif qui est mis en place. Voilà. Pour ce qui est quand même de l'excellence, ce qui est étonnant, c'est que à la fois, c'est une rhétorique qui est perçue comme telle, hein, et je pense qu'elle aura sa fin, puisque dans la présentation des diplômes, etc., parfois, cette rhétorique est raillée, hein, puisqu'il suffit d'aller maintenant sur les sites internet de certaines universités, c'est à qui se targuera de sa plus grande formation d'excellence. Ça peut produire un effet de comique, hein, voire de ridicule. Et qui est souligné parfois par certains collègues lorsque un tel va présenter un diplôme d'université où ça va être le plus excellent, et si j'ose dire. Et donc, le comique de la chose est souligné. Alors, ce qui est moins comique, c'est l'association précisément des frais des étudiants à la dite excellence. C'est-à-dire, on vend l'excellence très, très cher. Et on essaye de la vendre très cher dans des formations dites d'excellence, des écoles, etc. Mais en même temps, là aussi, il y a un ferment de contestation parce que lorsque les étudiants s'aperçoivent que les professeurs ce sont les mêmes qu'à l'université et qu'on paye très cher une formation par les personnes qui sont précisément excellentes, mais pas en raison de leur titre, de leurs études, des concours qu'elles ont réussis. Je pense que là, il y a un ferment quand même de contestation et de possibilité de s'apercevoir de la supercherie de l'excellence. Et du point de vue des valeurs, je pense que c'est pour ça qu'il faut s'attacher vraiment à la gratuité des études en tenant bon sur le fait que ce qui est le meilleur, c'est ce qui est gratuit.
Absolument. Juste un mot, oui. À propos des deux dernières interventions, justement, je crois qu'il y a cette nécessité pour nous, et la question a souvent été abordée dans ce séminaire, me semble-t-il, d'après ce que j'en ai entendu, puisque les enregistrements sont très précieux, sur ces questions de vocabulaire. C'est-à-dire qu'un des objectifs de l'appel était de faire réfléchir aussi à ce vocabulaire paradoxal qui est utilisé actuellement par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on nous vend des réformes libérales, individualisantes, etc., avec un vocabulaire qui a parfois été puisé chez nous. On a bien vu, par exemple, comment un certain nombre de demandes des États généraux de la recherche avait été récupéré par la suite, en retournant complètement le concept. Alors, il y a cette question d'excellence, mais on nous a vendu, par exemple, la réforme de la formation des enseignants comme une élévation du niveau de recrutement des enseignants, ce qui est totalement paradoxal, puisqu'on a masterisé, effectivement, mais ils n'ont plus aucune formation professionnelle. On nous a vendu cette excellence, on nous a vendu l'autonomie aussi. Et on trouve encore des collègues qui disent « Oui, mais quand même, l'autonomie, c'est un acquis. » L'autonomie, nous l'avions depuis la loi de 84 et même bien avant. Enfin, une administration qui vote ses budgets, qui désigne son supérieur hiérarchique, etc. C'est une supérieur hiérarchique qui, d'ailleurs, n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les enseignants-chercheurs. C'est une administration tout à fait particulière et cette autonomie existait. Mais le gouvernement a réussi à imposer un débat sur les bases qui étaient les siennes et qui se déroule encore un petit peu trop souvent, je trouve. C'est comme ça que le candidat du Parti socialiste est amené à défendre l'autonomie, comme si c'était une valeur en soi. Mais il entend par autonomie ce que le gouvernement a a essayé de nous faire croire qu'était l'autonomie. Donc je crois qu'il y a vraiment tout ce travail de déconstruction et de reformulation que nous devons faire dans ce domaine, parce que sinon on va raisonner dans les termes de notre adversaire.